Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 11 et la première partie de notre message concerne les dernières paroles du Seigneur. Il est dit dans Actes des Apôtres au chapitre 26, verset 18, « Je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » L'apôtre Paul affirme donc que ces paroles lui furent adressées par le Seigneur lui-même. Et nous ne devons pas nécessairement penser qu'il s'agisse ici de l'entretien du chemin de Damas, et l'apôtre Paul lui-même ne nous permet pas de le penser. Il s'agit bien plutôt de la substance des visions et des révélations du Seigneur qui furent accordées à l'apôtre Paul pendant ses jours d'extase, où l'Évangile lui fut révélé dans sa plénitude. C'est donc le message du Seigneur ressuscité et les dernières paroles qu'il ait prononcées. C'est l'Évangile après la croix. Je répète, c'est l'Évangile après la croix, après la tombe et les cieux. Donc, et le ciel ouvert. C'est une déclaration de celui qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification. Elle proclame une bonne nouvelle plus complète que celle que Jésus-Christ pouvait prêcher en Galilée ou à Jérusalem. C'est la bonne nouvelle de l'enfant prodigue élargi, enrichi et proclamé par le même esprit et par le même cœur. Elle commence par les grandes étapes du Fils prodigue sur le chemin du retour. Primo ou premièrement, afin que tu leur ouvres les yeux. C'est ce que dit Jésus. Et dans la parabole, il avait dit, étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Et il continue, deuxièmement, « Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. » Et dans la parabole, il ajoute, « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et le message à l'apôtre continue. Troisièmement, pour qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu. Et ceci pendant que la parabole déclare, « Et il se leva et alla vers son père. » Voici maintenant l'étape suivante, numéro 4. « Pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés que nous retrouvons dans la parabole. » Comme il était encore loin, son père le vit, l'a donc vu, et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à ses pieds et le baisa. Et le message se termine par ces mots, cinquièmement, pour qu'il reçoive l'héritage avec les sanctifiés. Pendant que la parabole conclut, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Telle est l'expérience du salut considérés dans les progrès de l'Évangile dans l'âme du croyant. Le Seigneur précise ici 5 stages différents de l'expérience chrétienne que nous aurons maintenant intérêt à examiner pour voir si nous les avons tous franchis. Commençons donc premièrement. Jésus-Christ commence par dire « afin que tu leur ouvres les yeux ». Le pécheur ne peut s'approcher de Dieu sans prendre d'abord conscience de son péché. Le péché est toujours aveugle. L'apôtre Paul, plus qu'un autre, a mesuré l'aveuglement du monde. Dans ses épîtres, il souligne les grossières appétits de ses contemporains, leurs plaisirs factices, leur ambition impitoyable et l'ignorance dans laquelle ils sont de Dieu, même dans leur religion et leur culte, dans leur espoir humain, ils sont encore aveugles. L'autel a un Dieu inconnu. On a donc dit « à un Dieu inconnu » qu'il rencontra à Athènes, suscita en lui, et on s'en souvient, une immense pitié à un Dieu inconnu. Figurez-vous cela. L'état moral du monde romain le souleva d'une horreur dont on trouve un écho dans ce premier chapitre de l'Épître aux Romains qui nous paraît quelquefois tellement surprenant tant nous avons de peine à réaliser les sentiments de l'apôtre. Si leurs yeux avaient été ouverts, ils auraient eu en horreur les plaisirs corrompus dans lesquels ils se complaisaient. Et combien le monde qui nous entoure est aveugle. Voyez ces cruautés sans nom. Ses brutalités qui font frémir, son exploitation sans merci des faibles et de tous ceux qui ne peuvent se défendre, ses passions charnelles d'ambition souvent égoïstes et personnelles. Tout cela n'est rien d'autre que l'œuvre d'une génération aveugle. Voyez les dévots de certaines religions, essayez de savoir ce qui se passe dans ces temples et vous comprendrez à quel point une religion peut être aveugle. L'ivrogne qui ruine sa santé et son foyer, l'insensé qui ruine son corps et son âme, l'avare qui dessèche tout son être par amour pour l'or, celui qui se disperse de tous côtés au point de perdre son âme, celui qui vit uniquement dans les plaisirs ou les réalités de la vie matérielle et n'a aucune idée des choses invisibles. Tous ceux-là sont évidemment aveugles. Quel est notre état premier avant que nous l'ayons rencontré? N'avons-nous pas les uns et les autres erré dans notre aveuglement? Lorsque un homme pécheur s'approche de Dieu, il commence par lui ouvrir les yeux. Il révèle l'homme à sa propre conscience. La vérité commence à pénétrer en lui. La beauté de Christ se révèle à ses yeux à l'heure de la douleur et de la honte. La lumière de la croix juge en lui le péché, en même temps qu'elle lui annonce de meilleures choses que le sang d'Abel. C'est quelquefois la parole d'un prédicateur ou le témoignage d'un frère ou d'une sœur, ou tel détail pour d'autres sans importance, qui fait pénétrer en nous la lumière et nous révèle du même coup combien nous avons été coupables et combien nous avons été pleins de folie dans nos errements passés. Mais maintenant, nos yeux ont été ouverts. Deuxièmement, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Voyez-vous, lorsque les yeux de l'homme s'ouvrent, c'est pour lui un moment critique, car tout dépend du pas qui va suivre, de l'attitude qu'il va adopter. Les yeux des hommes se sont souvent ouverts sans pour cela se tourner des ténèbres vers la lumière. Lequel d'entre nous n'est jamais retourné à ses errements et à ses péchés d'autrefois, bien qu'il ait eu, en un clin d'œil, la vision de son péché et de sa misère? Oh, chers amis, moi, j'ai fait pareil de tout cela. J'ai fait partie, en effet, de ceux qui ont également rétrogradé, malheureusement. Un homme peut parfaitement savoir qu'il fait le mal, et il peut même le décrire sous des aspects tellement repoussants que les autres en soient détournés, et cependant persévérer dans sa mauvaise voie parce qu'il préfère les ténèbres à la lumière. Il y a là des choses que nous pouvons nous souvenir. Par exemple, John Bunyan, il l'a dit d'une manière inimitable. Un chemin qui part de la porte même du ciel, mais qui conduit en enfer. Troisièmement, de la puissance de Satan à Dieu. Et oui, l'homme a dit Jésus-Christ. Jésus-Christ a donc dit que l'homme doit non seulement passer des ténèbres à la lumière, mais aussi de la puissance de Satan à Dieu. Ce n'est pas assez pour un homme de se détourner du mal, de prendre toutes les bonnes résolutions possibles pour fixer sa volonté vers le bien et vers une vie meilleure. Mais il faut encore que l'homme se tourne vers Dieu. C'est là que commence le combat. Dès qu'un homme ou une femme commence à s'appuyer sur les témoignages que Dieu a donnés de lui-même et de sa fidélité, il se trouve aux prises avec une puissance hostile et invisible que le Seigneur attribue à Satan. Nous connaissons tous la force et la puissance de cet adversaire redoutable qui nous attache de mille liens, carrément des liens, lorsque nous voulons faire le premier pas vers Dieu. Et il nous retient par notre passé, par les années d'impiété et d'insouciance que nous avons vécues. Donc, il nous attache par les paroles méchantes que nos lèvres ont prononcées, par les chansons que nous avons chantées, les plaisanteries dans lesquelles nous avons pris plaisir, par les œuvres dont le souvenir nous poursuit, par les relations que nous avons établies autour de nous et dont nous ne pouvons plus nous défaire, par nos habitudes qui sont pour nous des entraves sérieuses dont les effets se manifestent jusque dans nos rêves. Enfin et surtout, par cet amour enraciné que nous portons au péché qui nous le fait désirer au moment même où nous en souffrons et où nous gémissons en constatant l'amertume des fruits qu'il produit pour nous. C'est cet amour du péché qui retient prisonnière notre volonté. C'est là le point de bataille décisif. C'est la lutte suprême dont l'enjeu est éternel. Combien en avons-nous connu de ces personnes qui avaient pris des décisions, qui avaient confessé leurs péchés, s'étaient engagés dans de nouvelles habitudes et une vie nouvelle, qui, en un mot, semblait vraiment être passée de la puissance de Satan à Dieu et qui ont ensuite trébuché sur de vieilles habitudes, sur les appétits ou les fréquentations de jadis et sont ainsi retombées dans l'ornière. Elles étaient passées des ténèbres à la lumière, mais non de la puissance de Satan à Dieu. Je répète, elles étaient passées des ténèbres à la lumière, mais non de la puissance de Satan à Dieu. Et je dois vous avouer, j'ai également fait partie de ceux-là. C'est alors que Dieu nous appelle à un suprême effort d'énergie. Nous échappons à la puissance de Satan, non par les vœux que nous pouvons prendre ou par nos résolutions, par notre repentance ou nos désirs de réforme, mais en nous tournant vers cette grande personnalité génératrice d'amour et de force. Nous devons aller à celui qui nous a et se montre toujours prêt à nous recevoir et à nous porter dans ses bras éternels. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Le pécheur qui lève les yeux vers la maison du Père, mais attend d'avoir réformé ses voies, ne peut et ne pourra jamais franchir le seuil des parvis célestes. C'est l'effondrement immédiat, complet et absolu devant Dieu qui introduit un homme dans les chemins de la paix intérieure, le faisant passer de la puissance de Satan à Dieu. Je répète, c'est l'effondrement immédiat, complet et absolu devant Dieu qui introduit un homme dans les chemins de la paix intérieure, le faisant passer de la puissance de Satan à Dieu. Et quatrièmement, il est dit pour qu'il reçoive par la foi la rémission des péchés. Le combat est maintenant terminé. L'homme s'est approché de Dieu, il s'est prosterné à ses pieds, il reçoit alors la première des bénédictions que procure l'expérience chrétienne. C'est la rémission des péchés. Il est important de noter que le Seigneur situe à la croix cette expérience vitale et indispensable. La rémission des péchés, ce n'est point pour l'homme le commencement d'une religion nouvelle, comme l'a si bien montré John Bunyan dans son Voyage du chrétien. La croix ne se dresse pas dans la proximité de la ville de destruction, elle n'apparaît que beaucoup plus tard sur le chemin de l'homme qui a déjà quitté les ténèbres pour la lumière et la puissance de Satan pour celle de Dieu. Oui, les hommes et les femmes ne doivent pas être étonnés si une période de douleur et d'anxiété, de tristesse et d'angoisse de leur âme, oui, c'est possible, car voyez-vous, les larmes et la honte sont absolument indispensables avant que ne leur soit accordé le pardon des péchés. En effet, ce dernier n'est pas le prix de quelques mérites ou de quelques œuvres, il ne s'acquiert, mais seulement il doit être reçu. Je répète cela. En effet, ce dernier n'est pas le prix de quelques mérites ou de quelques œuvres. Il ne s'acquiert pas. Vous avez compris. Cela ne s'acquiert pas, mais cela doit se recevoir. Cela se reçoit. Et voyez-vous, je me demande si l'on enseigne toujours ces simples éléments de l'Évangile d'une manière parfaitement pure et claire. Les hommes pensent souvent, et le disent quelquefois, que si les hommes se repentent et confessent à Dieu leurs péchés, Dieu sera réconcilié avec eux. Mais tel n'est pas l'Évangile de Christ. Dieu est en fait réconcilié avec vous, que vous le soyez ou non, vous avec lui. Dieu vous aime alors même que vous lui tournez le dos pour commettre les péchés les plus grossiers. Jésus-Christ est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. 1 Jean, donc 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 2. C'est une chose pour Dieu d'être réconcilié, et c'est une chose d'avoir un pardon tout préparé pour n'importe quel homme ou femme pécheur, mais c'est une toute autre chose pour l'homme d'accepter et de recevoir ce pardon. Lorsque un homme se détourne des œuvres de Satan pour s'attacher à Dieu, il reçoit ce pardon que Dieu avait conservé pour lui dans l'attente du jour où cet homme désirerait le recevoir. Prenons un exemple. Voici deux hommes qui ont été longtemps des amis intimes et très chers. Ils ont eu en commun de précieuses expériences, mais un jour, cette douce et précieuse communion se trouve détruite par l'un de ceux qui en garde un profond ressentiment contre celui qui fut son ami. Ce dernier voudrait bien retrouver son ami. Il recherche sans se lasser les occasions de renouer avec lui, mais il s'aperçoit bien vite qu'il n'est plus pour son ami d'hier qu'un étranger. Mais voici qu'un jour, le coupable est vraiment éprouvé dans ses affections, car il perd un enfant bien-aimé. Et le premier qui vient lui exprimer toute l'affection et la sympathie qu'il n'a cessé de lui porter, c'est son ami de toujours. Notre homme éprouvé le regarde avec stupéfaction et ne peut qu'admirer une pareille constance. Mais ce n'est que pour apprendre, avec un étonnement plus grand encore, que son ami n'avait fait qu'attendre une occasion comme celle-là. Telle est, chers amis, la position de Dieu envers l'homme coupable. Lorsqu'il s'approche de Dieu, l'homme coupable apprend que ce pardon lui était acquis depuis des années et que Dieu attendait simplement qu'il veuille bien l'accepter. Oui, chers amis, c'est cela, l'évangile de la croix. Dieu attend sans cesse pour faire grâce et il a été réconcilié avec nous par la mort de son Fils bien-aimé. Il est le Père qui pardonne non pas à cause des pleurs de honte qui inondent notre visage, mais parce que son Fils unique a effacé par son précieux sang les ordonnances qui nous condamnaient. Il nous appartient simplement d'accepter cette rémission des péchés. Et cinquièmement, il est dit « afin qu'ils reçoivent par la foi l'héritage avec les sanctifiés ». Le pardon n'est que la première des bénédictions de la vie chrétienne, la porte qui ouvre sur une vie de communion et de service. C'est le commencement d'un perpétuel enrichissement du croyant par son Père céleste, et vient ensuite l'héritage avec les sanctifiés. Quel est cet héritage? Jésus-Christ ne parle ici du ciel et il fait allusion à une expérience qui est pour nous dès ici-bas, tout comme la rémission des péchés, l'héritage des sanctifiés. C'est sur les lèvres de Christ l'amour, la paix, la joie qui emplissent le cœur du chrétien, la force et la constance de son caractère d'enfant de Dieu, l'humble obéissance, la pureté, l'amour de la vérité, la délicatesse et la probité de toute sa vie, sa communion avec tous ses frères et sœurs en la foi. Et c'est son service volontaire pour chacun d'eux et sa communion constante avec le Père Céleste. C'est la plus belle robe, c'est l'anneau au doigt, c'est les souliers aux pieds et la joie du festin. Donc, c'est le don du Saint-Esprit et l'approbation des richesses insondables de Christ. L'Éternel est mon partage et mon calice. Un bel héritage, mais déchu, disait le psalmiste de l'Ancienne Alliance. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, dit-il ailleurs. Ce n'était que de confuses et lointaines prophéties de cette paix, de cette joie, de cette expérience qui ne meurt pas. C'est une espérance qui ne peut jamais mourir, de cette communion merveilleuse qui exalte le croyant, qui constitue l'héritage des sanctifiés. Et je sais fort bien que c'est là une expérience que tous ne possèdent pas. C'est un état de bien-être et de félicité auquel certains n'osent pas aspirer, auquel d'autres ne veulent pas atteindre. Et toutes nos vies se déroulent sur un plan spirituel anormalement bas et qui n'est en rien nécessaire parce que nous ne voulons pas marcher sur le chemin de la consécration qui seul nous assure la possession de cet héritage. Nous voulons bien être des enfants de Dieu, mais nous ne désirons pas être héritiers avec Christ. La consécration est un mot qui fait frissonner et qui rebute bien des gens. Certains peuvent recevoir cet héritage avec les sanctifiés lors de réunions spéciales ou de rencontres exceptionnelles. Là, sous l'influence du Saint-Esprit, ils peuvent se consacrer entièrement à Dieu, mais ce n'est pas du tout la fin de toutes les difficultés et de tous les devoirs, car il faut savoir se maintenir dans la vigilance et la prière sur le plan de vie élevé. Il n'est cependant pas besoin d'aller à des réunions spéciales pour recevoir cet héritage. Chaque fois que nous savons nous séparer des autres pour être seuls avec Dieu, seuls avec sa sainte parole et les exigences qu'elle nous présente, nous pouvons connaître une étape nouvelle dans le chemin de la parfaite consécration. Dieu, quelquefois, nous met à l'écart par un temps d'épreuve ou de tristesse, ou même de péché qui nous humilie. Il nous conduit vers cette heure où notre foi nous permettra de l'aimer davantage et de le suivre avec une fidélité accrue, par une foi plus puissante, plus vivante, ou si, là, nous entrons en possession de l'héritage des sanctifiés. Je répète, par une foi plus puissante, plus vivante, nous entrons en possession de l'héritage des sanctifiés. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Chers amis, notre deuxième message, c'est la prédication de l'apôtre Paul au sujet de la rémission des péchés. Il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 38, « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui, Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par Jésus-Christ et de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » Je répète, sachez donc, hommes, frères et sœurs, que c'est par lui, Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par Jésus-Christ de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Actes 13, verset 38. Donc, c'est par cette déclaration que l'apôtre Paul termina le sermon qu'il prêchait dans la synagogue à Antioche. Son argumentation fait écho à celle que présenta Étienne devant le Sanhédrin. Étienne était un penseur de très grande valeur. Son esprit, tel un prisme, analysait la lumière de l'Ancien Testament. Son discours devant le conseil des chefs de son peuple eut certainement une grande influence sur l'esprit de l'apôtre Paul. Pour lui aussi, les promesses et les espérances de la révélation de la loi se trouvaient accomplies en Christ qui est mort et qui est ressuscité des morts, offrant ainsi un sacrifice parfait dont tous les autres n'étaient que l'ombre. Et c'est pourquoi Il proclame un évangile dont ni la loi, ni les prophètes ne pouvaient rêver. Car celui de la pleine rémission des péchés, c'est là, sinon le premier élément du credo, du moins le premier message du prédicateur de l'évangile. Je répète, c'est pourquoi il proclame un évangile dont ni la loi, ni les prophètes ne pouvaient rêver. C'est celui de la pleine rémission des péchés, car c'est là, sinon le premier élément du credo, du moins le premier message du prédicateur de l'évangile. Mais qu'est-ce que le pardon des péchés? Quelle expérience est la nôtre lorsque nous sommes pardonnés? Quelle est vraiment l'expérience quand nous sommes pardonnés? On en nie souvent la nécessité et on en sent trop rarement le caractère d'urgence. Si elle constitue véritablement l'expérience de base de la vie chrétienne, eh bien nous devons connaître tout ce qu'elle implique et nous devons examiner en détail notre propre expérience de la rémission de nos péchés. Premièrement, c'est d'abord une expérience réelle. Ce n'est pas un état auquel l'âme puisse hisser à l'occasion de circonstances mémorables ou de ravissements intérieurs. Ce n'est pas la joie particulière à ceux qui ont été arrachés au péché comme des tissons hors du feu. Sans la rémission des péchés, un homme ne peut être chrétien. C'est la seule expérience dont les millions qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ parlent en des termes pratiquement identiques. L'intensité de l'expérience dépend de notre tempérament, de notre connaissance et de notre passé. Mais dans chaque cas, la rémission des péchés, c'est la paix avec Dieu. C'est la purification de la conscience souillée, la disparition de la peur qui emplissait jusqu'à ce moment notre cœur. C'est la rémission des péchés. Oui, elle aussi doit être réelle, une réalité que le péché lui-même est notre péché, est donc aussi réel que les pierres dont sont couverts les rues de nos villages. Si pour nous cette expérience n'est pas réelle, c'est peut-être parce que pour nous Dieu n'est pas réel. Ou bien sa colère contre le péché n'est pas réelle, ou bien son amour n'est pas réel. Voyez-vous, pour beaucoup de personnes, Dieu n'est rien de plus qu'un nom, une sorte de Dieu imaginaire. Elles ne veulent pas penser que l'univers existe sans lui, sans lui donner un auteur qui n'est pour elle qu'une source de vie et d'ordre inconnu et combien éloigné d'eux-mêmes et très vague. Si pour vous Dieu n'est rien de plus, alors votre péché ne vous paraît pas réel. C'est aussi simple que cela. Vous ne comprendrez pas qu'il constitue une offense pour Dieu. Même si vous êtes convaincu de sa folie, de sa bassesse et de sa turpitude, vous ne le confesserez jamais et vous n'aurez jamais l'espoir de trouver le pardon. C'est un des tourments les plus poignants qui puissent frapper les hommes, de ne pouvoir obtenir le pardon de ceux qu'ils ont offensés et qui sont morts. Il n'y a plus de pardon possible lorsque Dieu est aussi éloigné et aussi absent de notre expérience que le sont les morts. Le péché et la rémission des péchés sont alors des mots sans valeur d'expérience et de réalité. Peut-être aussi la colère de Dieu contre le péché n'est-elle pas une réalité pour nous? Je suis toujours étonné de constater combien les hommes prêtent facilement à Dieu un caractère tout superficiel. Ils pensent et parlent comme si Dieu n'avait aucune réaction devant le mal et le péché, comme si l'orgueil, la cruauté, la convoitise lui étaient absolument indifférents. Nous avons tellement vu l'injustice, la souffrance de toute nature, de violations sans nombre de la loi morale, que nous sommes devenus insensibles devant tous ces péchés. Être indifférent devant le mal, devant le mal moral, c'est porter la marque de Satan, attention. Si Dieu était indifférent, s'il n'était pas douloureusement affligé par le mal, s'il ne lui était pas fondamentalement hostile, à quoi cela servirait-il que nous lui adressions nos prières? Peut-être aussi est-ce l'amour que Dieu manifeste aux hommes qui ne nous paraît pas une réalité profonde? Il y a des hommes qui sont bien persuadés de la réalité de la personne de Dieu et de celle de sa juste colère contre le péché, mais leur péché a été si volontaire, ils ont tellement vu dans leur conscience et dans leur corps la malédiction qu'il a entraînée qu'ils ne peuvent pas croire à l'existence même du pardon. Ils pensent qu'ils n'ont rien d'autre à faire qu'à continuer à porter avec eux les péchés de leur jeunesse. Ils ont eu leur chance d'une vie pure et noble, et ils l'ont perdue. Ils se refusent à penser à Dieu et au pardon qu'il nous offre. Ils agissent comme le commerçant qui serait trop pénétré de la banqueroute qu'il va faire pour accepter d'ouvrir ses livres et de vérifier ses comptes. Il pense que Dieu ne se montrera pas trop sévère à la fin. Mais pour l'instant, ils ne peuvent admettre que Dieu les aime, qu'il est prêt à leur faire miséricorde, que c'est même le plus cher de ses désirs et qu'il les supporte de lui faire confiance. C'est seulement lorsqu'ils auront cru à l'amour dont Dieu les aime que la rémission des péchés pourra devenir pour eux une réalité. Deuxièmement, c'est ensuite une expérience personnelle. Oui, on a souvent dit, avec juste raison, qu'il n'y avait point de pardon dans le monde de la nature. On pourrait dire tout aussi justement qu'il n'y a pas de sang dans une pierre. Mais cela ne prouve pas qu'il n'y en a pas dans le cœur humain. Il n'y a pas de pardon dans la nature. Il n'y a pas de place pour le pardon dans la loi, mais il y a un pardon en Dieu, car Dieu est une personne, ça change tout. Le pardon n'est naturellement possible que d'une personne à une autre personne. Et je me demande d'ailleurs si jamais créature humaine a été capable de pardonner complètement et absolument. Un seul être est capable de pardonner vraiment, c'est Dieu. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul, demandaient les pharisiens, posant ainsi, sans le savoir, une question profonde et combien émouvante. Un être humain peut-il vraiment pardonner du fond du cœur? Nous pouvons oublier l'offense. Nous pouvons compter au nombre de nos amis celui qui nous a offensés. Nous pouvons être à son égard plein de douceur et de bienveillance, mais il reste dans notre souvenir quelque chose d'amer et de douloureux. Le tort qu'on nous a fait revit dans notre mémoire d'une façon beaucoup trop réelle pour que notre pardon ait été complet. S'il avait été absolument réel, il ne resterait plus trace de rien dans notre souvenir. Nous croyons quelquefois que celui auquel nous avons fait du tort peut demeurer avec nous le même que celui qu'il était auparavant. C'est une affirmation cynique, mais combien vraie, que l'homme ne haït jamais personne davantage que celui qu'il a eu l'occasion d'offenser. Heureusement que tous ne sont pas aussi cyniques et mauvais dans leur cœur. Personnellement, je ne pourrais jamais réagir de cette façon-là. Bien au contraire, j'aurais une gratitude permanente envers une personne qui m'a sincèrement pardonné. Car voyez-vous, j'ai la même attitude envers mon bien-aimé Sauveur. Les Écritures emploient pour dépeindre ce pardon les images les plus énergiques et les plus suggestives. Il a rejeté nos péchés derrière son dos, c'est-à-dire il les a mis hors de sa vue. Ailleurs, il est même dit au fond de l'océan. Il a permis que nos péchés soient désormais aussi éloignés de nous que ne l'est l'Orient de l'Occident, c'est-à-dire que nos péchés ne sont plus susceptibles d'être aperçus par ceux qui nous entourent. Il a dissipé nos transgressions comme un nuage sombre. Il a fait disparaître notre péché et la culpabilité qui s'y rattache. Il n'a rien laissé d'autre sur nos têtes que le bleu de son ciel. L'homme ainsi pardonné se trouve face à face avec le Dieu qui pardonne. Troisièmement, c'est aussi une expérience qui réconcilie. Malgré l'emploi continuel que l'on fait de ces termes, l'expression « rémission des péchés » est quelque chose de difficile à comprendre. Nous percevrons plus clairement quel en est le sens si nous pensons à la réconciliation de deux personnes qui étaient devenues étrangères l'une à l'autre et qui se trouvent maintenant réunies par la bienveillance de celle qui avait été lésée. Quand nous sommes pardonnés par Dieu, il est réconcilié avec nous. Il nous fait grâce de notre péché. Il y a trois façons de traiter le pécheur. La plus simple consiste à le livrer à la justice qui le condamnera et ne lui fera pas grâce de la plus petite peccadille. La seconde consiste à raisonner le coupable, à le laisser libre, moyennement caution, et à l'assurer qu'il lui sera donné toute l'aide possible. Mais tout cela n'est pas le vrai pardon. La rémission des péchés pénètre la psychologie du pécheur, connaît l'origine et les causes du péché, s'en montre vivement touchée et paye elle-même les dettes que peut avoir contractées le pécheur. C'est ainsi, chers amis, que Dieu traite l'homme coupable et révolté. La rémission des péchés, ce n'est pas simplement une mise à l'abri des coups de la justice, c'est d'être réconcilié avec Dieu. L'Écriture nous donne un exemple sans égal de ce pardon. Aucun passage d'un drame humain ne sera jamais capable d'égaler les tendres sentiments et les motifs élevés qui conduisirent Joseph à pardonner à ses frères. Souvenez-vous de la merveilleuse histoire de Joseph. Ils s'étaient rendus coupables, ses frères, de meurtre. Ils n'avaient jamais rien dit de leur crime sans se soucier de savoir quel avait été le sort de leur frère. Ils avaient été la cause que leur père Jacob avait passé dans la douleur les 20 dernières années de sa vie. Ils avaient méconnu le vrai caractère de Joseph, alors même qu'il leur avait déjà manifesté la bienveillance qu'il leur portait. Et dans cette dernière scène, ils viennent se prosterner devant lui de peur qu'il ne cherche à se venger. Mais c'est alors que leur frère révèle un caractère semblable à celui de Dieu. Il ne les renvoie pas sans leur donner l'assurance que les choses vieilles sont passées et que désormais toutes choses sont nouvelles, ni sans leur donner l'utile conseil de se garder du mal le long du chemin. Avec les paroles pleines de tendresse, d'un amour désormais réconcilié, il efface de leur cœur les dernières traces de la peur qui les tenaillait et se les attache par les liens d'une nouvelle affection. Voilà, chers amis, comment Dieu pardonne. Oui, le pardon qu'il nous accorde ne nous permet pas d'échapper seulement à sa colère et à sa malédiction. Ce n'est pas une rémission du châtiment, mais c'est une réconciliation. Je répète, le pardon qu'il nous accorde, que Dieu nous accorde, ne nous permet pas d'échapper seulement à sa colère et à sa malédiction. Ce n'est pas une rémission du châtiment, mais c'est une réconciliation. Quatrièmement, c'est ensuite une expérience pleine de fruits. Nos péchés d'hier sont plus qu'une souillure de notre âme. C'est un souvenir amer ou un fardeau à notre conscience. Ils sont pour notre esprit une source de corruption, pour notre volonté un obstacle, une barrière qui nous empêche, de connaître la joie d'une œuvre meilleure ou de paroles saintes. La rémission des péchés nous apporte, avec la réconciliation, la purification, la délivrance, la libération et le complet renouveau. La joie et la paix, le sentiment d'avoir été libéré, le désir d'un service purifié de tout égoïsme accompagne en nous le pardon que Dieu nous offre. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige, écrivait le psalmiste de l'ancienne alliance, aux prises avec cette soif de sainteté que produit en nous la rémission des péchés. Le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne, s'écrit celui qui, après avoir connu les abîmes du péché, marche sur les chemins d'une nouvelle obéissance. C'est assez d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, écrit l'apôtre Pierre, lorsqu'il réalise combien le pardon de ses péchés l'incite à marcher dans la voie de la sainteté. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités, écrit l'apôtre Jean, connaissant les conséquences purifiantes que le pardon apporte dans un corps, dans un cœur contrit. Nous pouvons quelquefois avoir des doutes sur la réalité de notre pardon. Nous avons eu nos heures de repentance et de prières douloureuses. Nous avons connu des heures de calme et d'espoir. Et cependant, vous êtes ou vous n'êtes pas absolument sûr de votre pardon. La preuve ne vous en sera pas donnée par le sentiment que vous aurez de votre pardon, mais par l'efficacité qu'il aura dans votre vie. Le véritable pardon opère des miracles dans la vie de celui, de celle qui en a été l'objet. Cinquièmement, c'est ainsi une expérience qui se répète. Oui, c'est ensuite vraiment une expérience qui va se répéter. Il y a sans doute une expérience initiale qui surpasse toutes les autres et dont toutes découlent, oui, c'est l'aurore qui proclame la venue d'un jour nouveau. Certaines personnes gardent un souvenir très clair de cette première rémission de leurs péchés. Là, le pardon a porté non point seulement sur des œuvres et des paroles mauvaises qui les tourmentaient, mais davantage sur une vie jusqu'ici vécue sans Dieu et un cœur en rébellion contre lui. C'était l'heure de leur justification devant Dieu. Pardon et justification sont des choses différentes. Nous sommes justifiés une fois et une fois seulement, une fois pour toutes. Avez-vous compris? Mais notre pardon est en quelque sorte le secret de notre âme. Lors de notre justification, il a besoin d'être sans cesse renouvelé. C'est une vérité sur laquelle il n'est pas besoin d'insister. Nous ne pouvons jamais entrer en la présence de Dieu sans lui dire « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », nous ne pouvons jamais monter au temple pour prier sans reprendre à notre compte le cri du péager « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Tous les jours, nous sommes plus ou moins souillés par le péché. Oui, tous les jours, nous avons besoin d'un pardon nouveau. Tel péché s'insinue dans notre vie, telle habitude nous enserre, telle mauvaise pensée nous tourmente comme un démon tentateur, telle chute nous couvre de honte, telle brutale réapparition de notre vieille nature, de jalousie, de haine ou d'impureté souille notre conscience. Nous avons besoin d'un nouveau pardon, tout comme Abraham, après sa lâcheté et sa duplicité en Égypte, et comme Moïse, après son accès d'impatience, et comme David, après son infâme adultère, et même comme l'apôtre Pierre, après sa trahison. Et sixièmement, le pardon dans sa plénitude est une expérience qui se situe au pied de la croix de Christ. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici nous ramène au pied de la croix. Il n'y a pas de pardon possible dans ce monde, comme dans celui qui est à venir, sans la croix de Jésus-Christ. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. La religion païenne ont ignoré ces religions-là. Ils ont totalement ignoré le mot « pardon ». Les philosophes grecs cherchaient, eux, à réconcilier l'homme avec la divinité. Mais il s'agissait d'un problème intellectuel, alors que l'évangile de la croix offre la réconciliation entre Dieu et la volonté de l'homme. Les croyances de Bouddha ou de Mahomet ne laissent même pas de place pour ce besoin ou cette grâce de la réconciliation. On en trouve une preuve toute simple lorsque l'on parcourt un recueil de chants. La louange domine dans les cantiques chrétiens, alors que les temples de Bouddha n'ont jamais retenti des accents de la louange ou de la reconnaissance. Les mahométans, eux, ne chantent pratiquement jamais. Leurs prières sont par-dessus tout des prières de soumission ou de requête. Ils atteignent rarement l'action de grâce. Ils ne connaissent pas la joie exaltante de celui qui a été pardonné. Le livre des psaumes excelle par ses confessions et ses cris de repentir, de la honte et de la proximité de Dieu, et la joie ineffable et glorieuse qui est la part de celui qui a été pardonné, telle est la pensée de l'apôtre Paul lorsqu'il affirme que le pardon offert à la croix justifie de tout ce dont la loi de Moïse ne pouvait justifier. Je répète, le livre des psaumes, il est vrai, excelle par ses confessions et ses cris de repentir. Ainsi, de la bonté et de la proximité de Dieu, la joie ineffable et glorieuse qui est la part de celui qui a été pardonné, c'est merveilleux d'être pardonné, et telle est, croyez-moi, la pensée de l'apôtre Paul. Lorsqu'il affirme que le pardon offert à la croix nous justifie de tout ce dont la loi de Moïse ne pouvait justifier. En effet, la loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offert perpétuellement chaque année, vous savez qu'il fallait offrir chaque année des sacrifices, eh bien, les assistants n'étaient pas pardonnés de la même manière qu'aujourd'hui. Et vous pouvez lire cela dans Hébreux chapitre 10, verset 1. Ésaïe avait bien compris que l'âme coupable et l'Israël repentant ne pourrait être pardonné que grâce à un sacrifice qui serait accompli plus tard. Voyez-vous? Plus tard, par Jésus-Christ à la croix. Malgré les trésors d'adoration et de louange que renferment les psaumes, la pensée chrétienne a eu besoin d'un cantique nouveau. Et ceci pour exprimer tout ce qui découle de cette rémission des péchés qui est acquise à la croix pour vous et pour moi. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'aimerais vous donner quelques pensées que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Le Seigneur vous dit, ne craignez rien, car je suis votre Dieu et votre libérateur. Oui, il vous délivrera de tout mal, et faites-lui simplement confiance. N'ayez pas peur. En toutes circonstances, rendez grâce. Comprenez l'importance de cette recommandation. Il faut que vous puissiez dire merci dans les jours les plus gris. C'est alors seulement que tout peut s'éclairer. Il y a la leçon des journées grises, elle est absolument nécessaire. Sa mort sur la croix fut nécessaire, et ceci pour le salut de l'humanité qu'il lui fallait assurer. Elle fut nécessaire aussi à l'entraînement de ses disciples. Oui, cette mort et tout ce qui l'accompagna devait servir à les former. Son entrée triomphale à Jérusalem, l'exemple qu'il leur donnait en leur lavant les pieds, son agonie à Gethsémani, les moqueries, le jugement, la crucifixion qu'il subit, sa mise au tombeau. Chacune de ces étapes avait un sens pour eux. Ainsi pour vous également. Si l'une quelconque de vos journées grises n'est pas changée en un jour d'action de grâce, il faut que la leçon, oui, que la leçon soit répétée. Il n'en est pas ainsi pour tous, mais pour ceux-là seulement qui demandent à le servir jusqu'au bout et sans réserve. pour accomplir une grande tâche, il faut s'être préparé à fond et longuement. Prions maintenant. Seigneur Dieu, nous implorons avec espoir et confiance le secours de la grâce et de ton Saint-Esprit, afin de pouvoir élever à toi nos cœurs et nos âmes dans des sentiments sincères de foi, de reconnaissance et d'amour. Nous te bénissons pour toutes les faveurs que tu ne cesses de nous accorder, et nous te supplions de veiller encore sur nous pendant toute cette journée et pendant le reste de notre vie. Tu nous apprends à te chercher, à t'aimer et à te servir. Daigne amener nos âmes de plus en plus captives à l'obéissance de la croix et les pénétrer d'une espérance sans borne en ce Sauveur que tu nous as donné et par qui nous sommes préservés de ta juste colère. Aide-nous, Seigneur, à penser beaucoup à toi, à notre éternelle destinée, au salut que tu nous offres en ton Fils bien-aimé. Aide-nous à venir véritablement à lui pour avoir la vie et pour trouver la paix. Nous te prions, ô Dieu, de bénir nos amis et nos familles et d'avoir pitié des affligés, des malades, de tous ceux qui souffrent et qui ont un besoin particulier de ton secours. Exauce notre prière, ô Seigneur, pour l'amour de Jésus-Christ, notre unique espérance. Amen. Et, chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime, car cela est une réalité. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, à ces messages. Et je vous souhaite à bientôt de nous retrouver. Au revoir, mes très chers amis. Merci.